France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Entre polar, western et comédie, mais sous les bombes, Once Upon a Time in Gaza a remporté le prix de la mise en scène Un Certain Regard à Cannes. Un des deux réalisateurs, Arab Nasser, sera mon invité à partir de 13h. Mais d'abord, nos critiques sont sur les lignes de départ et aujourd'hui, pas de coup de gueule, donc que des coups de cœur, histoire de vous conseiller 4 livres à mettre dans vos valises cet été. On parle donc de Tout se tient de Stéphane Bouquet, Une mère éphémère de Emma Marsante, Maman et moi et maman de Maya Angelou et les deux volumes de nouvelles complètes de Philippe Cadic. Vous écoutez les midis de culture dans mes bras. Et c'est généreux d'honneur de conseils. Aujourd'hui, je vous les présente. Marie Sorbier, productrice du Point Culture sur France Culture et rédactrice en chef de IO.
Bonjour Marie.
Bonjour. Johan Farber, éditeur essayiste et critique littéraire.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. On commence avec deux livres sortis cette année. Et d'abord, Tout se tient de Stéphane Bouquet, paru chez POL, sorti le 10 avril dernier. C'est votre choix, Johan Farber. Avant d'être poète, Stéphane Bouquet a eu plusieurs vies, critique à Libération, scénariste pour Sébastien Lifshitz. Il a aussi travaillé avec la chorégraphe Mathilde Monnier. Et ce recueil, pour vous, Johan, est peut-être son meilleur à ce jour.
Oui, alors c'est un recueil qui paraît, comme vous l'avez rappelé, chez POL et qui vient en fait pour moi être le point d'orgue de 25 années passées à écrire. Il a commencé à publier autour des années 2000, avec notamment quelques recueils marquants comme Un monde existe, le mot frère, Un peuple et plus récemment Vie commune. Et ce recueil, moi, j'ai trouvé absolument admirable en fait pour trois raisons et c'est pour ça que j'engage nos auditrices et nos auditeurs à se précipiter dessus, parce que la poésie de Stéphane Bouquet est une poésie extrêmement narrative, extrêmement accessible, où le vers est très libre et il n'accède à la liberté que parce que justement il est à la recherche d'un certain contact avec le monde. C'est vraiment une poésie de la communauté. On cherche à aller vers l'autre dans des situations très 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 concrètes de la vie. Ensuite, je dirais que derrière cette apparente simplicité, il y a aussi une expérience sensible et intellectuelle très forte. C'est une poésie très fortement marquée, notamment dans ce recueil Tout se tient, par la poésie américaine qui, depuis le début, innerve ses vers.
C'est-à-dire alors la poésie américaine?
C'est une poésie en fait assez tournée vers, on va dire, pour le dire très très vite, objectiviste, où l'existence est vraiment au cœur d'un questionnement sur le quotidien et sur quelle sensation j'ai du monde, quelle sensation j'ai, qu'est-ce que je peux en retenir, c'est-à-dire comment la poésie va-t-elle capter, dans un monde qui va très vite, dans un monde où plus personne ne se parle, fermé à la communication, comment le plus petit atome va pouvoir me parler. Et donc il y a en fait pas mal de romantisme allemand dans cette poésie, notamment dans ce recueil, Tout se tient, dont le titre peut être interprété dans deux sens. C'est bien évidemment tout fait sens, voilà, tout se tient. La banalité de la formule est aussi très frappante, ce qui montre le caractère grandement accessible de la poésie de Stéphane Bouquet. Et puis Tout se tient, c'est une des phrases d'Auguste Blanqui lorsqu'il est en prison. Et donc c'est vous donner la dimension socialiste de ce texte qui se retrouve enfin de manière, je dirais, dans l'écriture, de manière générique dans l'écriture, puisque on a parlé de poèmes, je parle de poèmes depuis le début, mais il y a aussi des contes, il y a aussi des essais, notamment sur Pasolini. Bref, lisez-le absolument.
Mais c'est original quand même ça de mêler voilà, un essai sur Pasolini avec des contes, des poèmes. C'est un objet assez unique en fait.
C'est un objet assez unique qui a l'air disparate et pourtant, comme le dit le titre, tout se tient. Et c'est ça le miracle, en fait.
Je vous embête encore un petit peu, Johan Farber.
Vous ne m'embêtez jamais, Marie.
Vous disiez voilà, que c'est il est sensible à tout, le moindre atome parle au narrateur, mais c'est une poésie ancrée dans le temps présent.
Oui, c'est une poésie qui interroge aussi la manière dont on parle. Et donc, vous voyez, Stéphane Bouquet utilise beaucoup, par exemple, il est hyper tôt, voilà, avec le hyper, le super, voilà, il y a vraiment un travail sur le langage courant qui est en fait aussi à la recherche d'une matérialité du langage qui, paradoxalement, ne doit pas être lourd. C'est-à-dire que la poésie doit accompagner l'être, mais ne doit pas, en fait, être un objet qui revient sans cesse sur lui-même pour s'interroger. Bref, une poésie très, très ouverte, et comme je le disais tout à l'heure, extrêmement narrative. Et puisque c'est à présent ce qui est le plus développé dans tout ce tien, et c'est peut-être le nouvel aspect de cette poésie qui m'a le plus charmé, c'est très éco-poétique. Mmh. C'est une poésie qui a vraiment toujours été tournée vers, comme je le disais, la nature, mais qui cette fois explore de plus en plus la manière dont, par exemple, le vol majestueux des goélands se dessine, et comment ce vol majestueux des goélands peut inspirer directement, en fait, l'écriture elle-même. C'est-à-dire donner la voix à la nature, et c'est ce qui peut peut-être nous arriver de mieux, c'est-à-dire disparaître dans une sorte de d'holisme, en fait, et d'atomisme dans lequel on serait finalement très heureux.
C'était donc « Tout se tient » de Stéphane Bouquet, c'est chez POL, c'est sorti le 10 avril dernier. On enchaîne avec une autre poète qui nous a quittés en 2014, c'est l'immense écrivaine afro-descendante américaine Maya Angelou. Et c'est votre choix, Marie Sorbier, car le dernier tome de son cycle autobiographique, entamé en 1969, vient d'être retraduit en France. Cette nouvelle traduction, on la doit à Claire Chabalier, chez Notabilia. C'est aussi le dernier livre de Maya Angelou, Maman et moi et maman. On l'aura compris, c'est un autoportrait et aussi un portrait de sa mère, la phénoménale Viviane Baxter. Pourquoi ce roman, Marie?
Bien, je n'avais jamais lu Maya Angelou. Je la connaissais pour ses actions militantes. C'est une activiste féministe. Elle a beaucoup lutté pour le droit des minorités, mais c'est aussi quelqu'un qui a été très proche de Mandela, de Luther King, mais aussi de Malcolm X. C'est que des figures comme ça, très fortes, hein, très marquantes de l'histoire récente. Et c'est James Baldwin qui l'encourage à écrire. Alors, elle avait toutes ces figures tutélaires au-dessus d'elle, mais je ne m'étais jamais plongée dans ses écrits. Et quand Notabilia a eu la bonne idée de rééditer ce texte qui vient de paraître là en mai, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de la rencontre avec Maya Angelou, et j'ai pas été déçue parce que c'est un petit livre, hein. Il est assez bref, mais c'est un livre très profond et à la fois très léger. C'est-à-dire que l'écriture de Maya Angelou, c'est pas une écriture très littéraire au sens où elle est pas très travaillée. C'est un langage très simple, très accessible. Ce sont des phrases qu'on pourrait se transmettre comme ça dans une conversation. Elle a pas cherché une forme, voilà, particulière, alors même qu'elle est poète, hein, donc on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus formel. C'est pas le cas, en tout cas, dans ce récit-là. Ce qu'elle essaie de faire, et ce qu'elle arrive, je trouve, magnifiquement à faire, c'est une déclaration d'amour à sa mère, mais c'est une déclaration d'amour un peu hors les clous, c'est-à-dire que sa mère, c'est vraiment pas la figure maternelle comme on peut l'imaginer, elle fait pas tout bien, loin de là, elle a abandonné ses enfants au tout début, hein, elle les envoie chez les grands-parents, très loin d'elle. Quand Maya Angelou revient voir sa mère, elle a 8 ans, elle connaît pas cette femme qui est très belle, qui est très impressionnante, qui parle beaucoup, c'est une femme puissante, sa mère, et donc cette petite fille a très peur de cette dame qu'elle ne connaît pas. Il y a tout le réapprentissage de la maternité. Et ce qui est très beau, je trouve, c'est que le lien qu'elle tisse est un lien à elle. C'est-à-dire que ce n'est pas le lien maternel comme on peut l'imaginer dans ce qu'il peut avoir de cliché ou de traditionnel. Elle s'invente une relation qu'on va appeler mère-fille, parce que finalement c'est les mots qu'on a, mais qui pourrait être une relation de sœur, une relation d'amie. En tout cas, c'est une relation à elle. Il y a un passage très beau au début, par exemple, où quand cette petite fille, donc de 8 ans, revient, elle refuse de parler donc à sa mère, et Viviane Baxter lui dit, mais je vois bien que tu n'arrives pas à m'appeler maman, peu importe, asseyons-nous autour d'une table, et comment tu veux m'appeler, on va trouver un nom qui te correspond. Et la petite fille répond, je peux vous appeler Lady, parce qu'elle est toujours très bien habillée et très belle. Et cette mère, au lieu de s'en offusquer ou de agir, lui dit, bah, très bien, allez hop, je m'appelle Lady. Et à partir de ces petits bousculements de la tradition, ou des gros parfois, elles vont réussir à créer une relation qui va durer jusqu'à la mort de la mère très tard. Donc vraiment, elles ont partagé la vie ensemble. Toutes les difficultés, il faut dire que Maya Angelou, elle est passée par elle a eu plusieurs vies, elle a eu mille vies, hein. Elle a été danseuse de cabaret, elle est poète, elle a été prof à la fac aux États-Unis, elle a suivi tous les grands activistes de son temps, mais sa mère a toujours été là pour lui donner des conseils pas très orthodoxes, hein. Elle va toujours, en fait, cette figure de mère, elle est intéressante parce qu'elle va toujours lui dire à sa fille, prends ton parti à toi et pas forcément le parti des autres, fais attention à ce que tu es digne d'intérêt, tu es digne de parole. Par exemple, sa fille veut avoir un premier emploi. Elle est noire, donc, et elle veut postuler comme contrôleuse de tramway dans la ville où ils habitent. Sauf que ça n'existe pas en son temps, les contrôleurs de tramway sont blancs. Et donc la mère et la petite fille, enfin la jeune fille à l'époque, voit pas le problème, elle voit pas qu'il y a que des blancs. La mère ne lui dit pas et elle lui dit « vas-y ». Sachant qu'elle va se prendre évidemment une honte et une dérouillée terrible. Elle y va, la fille évidemment se fait renvoyer en lui disant « mais qu'est-ce que tu crois, tu vas pas monter dans un tramway, tu es noire ?» Et la mère la renvoie le lendemain. Et donc, il y a une espèce d'humiliation en chaîne comme ça. Et la mère, assez dure, lui dire non, tu recommences. Le lendemain, tu y retournes et tu repostules. Et finalement, au bout de X fois, le chef de ce tramway finit par dire bon, écoute, si tu veux vraiment faire ça, tu peux faire. Et elle a été la première contrôleur de tramway des États-Unis, Maya Angelou. Donc, il n'y a que des histoires comme ça où on pourrait croire que la position de la mère est quand même rude. Elle l'est. C'est pas toujours très tendre. Elle lui a donné une force et une confiance en elle qui a fait après d'elle la grande femme qu'elle a été. Et ça, décrit par les yeux d'enfant, parce que c'est écrit à la fin de sa vie, mais il y a quand même quelque chose d'assez enfantin dans ce texte-là, moi je trouve ça très touchant. Ça montre un nouveau modèle de maternité, ou en tout cas, c'est pas un nouveau modèle, c'est un modèle inventé par elle qui leur correspond, et j'ai trouvé ça vraiment très beau.
Eh bien, vous allez nous en lire un petit passage, on a cette chance. On vous écoute, Marie Sorbier.
La première décennie du XXe siècle n'était pas une bonne période pour naître noire, pauvre et fille à Saint-Louis dans le Missouri. Mais Viviane Baxter est née noire et pauvre, de parents noirs et pauvres. Puis elle grandira et on dira d'elle qu'elle était belle. À l'âge adulte, elle serait connue comme la dame à la peau couleur beurre et aux cheveux coiffés vers l'arrière. Son père, un Trinidadien au fort accent des Caraïbes, avait sauté d'un bateau transportant des bananes à Tampa, en Floride, et a réussi toute sa vie à échapper aux agents du service de l'immigration. Il clamait souvent sa fierté d'être citoyen américain. Personne ne lui a expliqué que le simple fait de vouloir être un citoyen ne suffisait pas pour en être un. Dans un parfait contraste avec le teint chocolat de son père, sa mère avait la peau suffisamment pâle pour passer pour blanche. On la disait octavone pour indiquer qu'elle avait un huitième de sang noir. Ses cheveux étaient longs et lisses. À la table de la cuisine, pour divertir ses enfants, elle faisait tournoyer ses tresses comme des cordes, puis s'asseyait dessus. Bien que la mère de Viviane fût issue d'une famille irlandaise, elle avait été élevée par des parents adoptifs allemands et parlait donc avec un net accent germanique.
Maman et moi et maman de Maya Angelou, paru chez Notabilia le 8 mai de cette année. Merci Marie.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Et il est aussi question d'une relation mère-fille dans le livre que vous nous conseillez maintenant, Johan Farber. C'est une relation, là, pour le coup, absolument destructrice. Une mère éphémère d'Emma Marsant, apparue en 2022 aux éditions Verdier. C'est son premier roman, elle en a écrit un autre depuis. Et il s'ouvre sur le suicide de cette mère, la mère de la narratrice qui est alors adolescente. Et cette mort, en fait, n'est qu'un des traumas, des nombreux, multiples traumas qui ont émaillé la vie de cette famille bien-née, mais gravement dysfonctionnelle. Je vais y arriver. Donc vous, c'est pas Lionel, c'est Johan.
Oui, effectivement, oui. Alors je recommande vraiment vivement la lecture d'Une mère éphémère d'Emma Marsant, parce que pour moi, c'est vraiment un roman qui s'impose progressivement comme un classique, parce que c'est un roman qui est précurseur, en fait. On va le voir, notamment, la rentrée prochaine est construite autour des figures des mères. Il y a un certain nombre de romans qui vont paraître autour de la maternité, du matriarcat et du matrimoine. Et Une mère éphémère, en fait, pose les bases de tout ce qui constitue notre contemporain. Et à ce titre, justement, ce que vous évoquiez, moi, je dirais qu'il y a trois éléments qui m'ont déterminé à choisir ce livre aujourd'hui et à le recommander à nos auditrices et à nos auditeurs. C'est tout d'abord que c'est une enquête familiale obsessionnelle sur cette contre-figure maternelle, cette mère totalement énigmatique. On est dans le Neuilly des années 60, vous l'avez rappelé, un monde extrêmement d'hyper riche, en tout cas de riche, dans ces banlieues chics de Paris. Et cette mère, donc au début des années 80, se suicide. La scène d'ouverture du roman est absolument traumatique, puisque on voit que peut-être la mère a tenté d'assassiner la fille juste avant. Elle entre dans sa chambre avec un grand couteau. Et à partir de là, cette figure de la mère est une figure énigmatique, violente, opaque, aimante, une figure totalement indéchiffrable. La deuxième chose qui me paraît importante à propos de ce livre, c'est ce que j'appellerais un roman incestuel. On connaît depuis, en tout cas, Vanessa Springora, cette littérature dite Me Too, qui est une littérature très intéressante, notamment pas seulement dans l'écriture, mais dans la manière dont on lit et on déconstruit. C'est vraiment une littérature littérature de lecture. Et la grande particularité d'Emma Marsante, c'est que elle n'est pas, contrairement par exemple à Neige Sino ou Adèle Yon dans ce qu'on a pu appeler l'autothéorie, mais elle est justement dans la littérature elle-même. Et son acte féministe, c'est un acte littéraire où elle construit justement une parole extrêmement singulière. Et cette parole extrêmement singulière, elle est un acte politique parce que elle pose une question. C'est comment cet enfant, Mia, puisqu'il ne s'agit pas d'Emma Marsante, mais d'une sorte de double énonciatif qui s'appelle Mia, comment Mia devient progressivement une proie passive. Comment elle est entourée en fait de prédateurs, puisque le livre se construit sur une série de scènes où tout débute donc par cette scène absolument traumatique du suicide, mais en fait elle reconstitue cette maléducation qui l'a totalement, non pas déconstruite, mais détruite, à savoir le viol à l'âge de 5 ans, le père tyrannique, dandy mais paillard, également le frère incestueux et la mère mélancolique, folle, et cependant toujours aimante et fascinante. Et la troisième et dernière chose qui me paraît très importante vraiment dans ce livre, en tout cas à mes yeux crucial pour le contemporain, c'est qu'il ne s'agit pas d'un livre de dénonciation, c'est vraiment un livre d'énonciation, c'est-à-dire il essaie de trouver dans une langue très neuve, mais extrêmement accessible. Je veux dire, le livre est d'une grande violence, mais surtout, il est essentiellement fondé sur le matériau brut de la mémoire, très séquencé, et qui est vraiment très ouvragé. Emma Marsante, c'est une plasticienne, donc il y a vraiment le sens de la vignette, de l'image. Une mère éphémère, ça se lit vraiment extrêmement vite, mais sa force traumatique hante parce qu'elle est à la recherche, en fait, de ce qu'on pourrait appeler le langage de l'événement. Comment la littérature peut-elle être le langage d'un événement traumatique? Comment y parvenir? Comment y arriver? Et je crois que c'est une des très très grandes questions qui justement ne passe pas par l'autothéorie. Il ne s'agit pas de hiérarchiser en disant que les autres c'est pas
bien. Qu'est-ce que vous appelez l'autothéorie, pardon?
L'autothéorie, c'est en fait le fait de se questionner, comme par exemple Neige Sino ou Adèle Yon, à partir de la littérature comme Neige Sino, questionner ce qui vous est arrivé à partir de la littérature, de Lolita, de construire un livre qui est un flux de conscience, un discours, ou par exemple de se questionner, comme le fait Adèle Yon, à partir de Rebecca, d'Hitchcock, de prendre un matériau, cette fois cinématographique, et de questionner son histoire familiale sur la folie. On notera aussi que toutes ces histoires de folie, elles sont déjà en germe dans le livre d'Emma Marsante, puisqu'il y a aussi une grand-tante trépanée, pour les mêmes motifs que dans le livre d'Adèle Yon. Donc c'est vraiment une histoire familiale qui, c'est terrible à dire, est aussi une histoire française et une histoire vraiment de la bourgeoisie française, mais c'est un livre vraiment universel, et notamment, moi, ce que je trouve assez beau, singulier, c'est la manière dont tout se fait avec une très grande modestie, c'est très feutré, et c'est un livre qui propose des scènes parfois violentes, mais qui a toujours peur de les dire et qui les retarde, et je pense que c'est vraiment un livre, en tout cas à mes yeux, absolument essentiel pour comprendre la littérature d'aujourd'hui.
Eh bien, Johan, vous allez nous en lire un extrait, s'il vous plaît.
Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais je sais que cela s'est passé. Dans le seul fait que je ne puisse pas me souvenir, tient la véracité de mon récit. Cela a existé parce que je ne m'en souviens plus. Ma vie est construite en étages. L'enfance à Neuilly est le socle. Immeuble bien rangé, pierre agrafée, balcon modèle. Double rangée de marronniers. Mémoire lisse, trous structurels. L'enfance, le viol, la violence, la peur, la soumission, le luxe, l'art, le mysticisme, la démence, le silence, la culpabilité, la haine, la honte, les traversées vers Calvi dans les grandes tempêtes d'été en voilier dans la nuit, l'incompréhensibilité du réel, une réalité hachée, séquentielle, ancrée dans la prémonition, sentant qu'elle songeait à se tuer et sachant qu'il était psychotique, ou sachant qu'elle était psychotique et sentant qu'il songeait à nous tuer. Vivre en attente, à leur merci, en sursis. Faut-il commencer par la scène du meurtre? Je crois que le fort intérieur, c'est l'inceste. »
Merci beaucoup, Johan Farber. C'était Une mère éphémère d'Emma Marr. Sainte-Marie, vous l'avez lu.
Oui, moi je l'ai lu à sa sortie il y a 2 ans. Hein,
il y a
c'est
2 ans exactement.
Et j'avais un souvenir très fort parce que c'est un livre qui procure des sensations physiques. En tout cas, moi, ça m'a procuré des sensations physiques à la lecture, dans le sens où c'est quand même un livre très violent, très dur à lire, dur dans pas dans le sens d'accessibilité, hein, dur dans le sens des impressions physiques qu'il provoque. On en lit pourtant des livres et sur le suicide et sur l'inceste. Celui-ci est très différent. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Johan, c'est-à-dire que il précède tout ce qu'on a lu après, mais il les précède de façon un peu matricielle parce que elle se sert vraiment de la forme littéraire pour en parler. Moi, c'est ce qui m'a plu dans ce livre-là. Il a une vraie forme, comme souvent d'ailleurs chez Verdier. Hein, leurs auteurs travaillent les phrases et là, séparent la forme de ces phrases, la forme de ces paragraphes, la forme de ces chapitres qu'elle arrive à dire. C'est-à-dire que finalement, c'est beaucoup plus imagé que dit la violence et c'est pour ça, je crois, qu'elle m'a fait autant d'effet et que c'est autant dur à lire. Elle utilise notamment un procédé littéraire que je trouve très fort et en tout cas qu'elle utilise de façon très juste. C'est, vous savez, les courts-circuits. C'est-à-dire qu'il y en a un qui m'avait marqué. Elle dit qu'à table, quand ils étaient enfants avec son frère, donc l'incestueux, on leur disait les enfants ne parlent pas à table. Taisez-vous, les enfants ne parlent pas à table. Et la phrase après, elle dit et moi, quand j'ai subi l'inceste, je n'ai pas parlé non plus. Et voilà. Et c'est des espèces de courts-circuits comme ça de pensée où ces deux lieux communs qu'on n'aurait pas mis ensemble, sauf qu'elle les ajuste comme ça, et ça résonne, je trouve, dans la tête du lecteur de façon encore plus forte. Mais c'est une violence sans détour, hein. C'est très droit, quoi. On se prend vraiment et le suicide et l'inceste, et cette grand-tante qui m'a beaucoup fait penser à Adèle Yon. Il y a beaucoup les germes de ce que pourra faire Adèle Yon plus tard, mais autant Adèle Yon est dans la non-fiction, autant là, on est vraiment dans le roman. Elle a quelque chose de formellement très intéressant.
Johan Farber, on l'a dit tout à l'heure, c'est son premier roman, elle en a écrit un autre depuis, elle en prépare un autre, elle creuse quelque chose, dans son œuvre littéraire, c'est vraiment très précis en tout cas.
Oui, alors dans le second qui est sorti en janvier 24, Les fous sont des joueurs de flûte, on suit encore le personnage de Mia qui va, en fait, parce qu'elle a été incestuée, faire en fait les mauvais choix. Et donc, elle va aller de mariage désastreux en compagnonnage, en concubinage plutôt désastreux, et elle va devenir en fait une femme battue. Et on retrouve cette même force, ces vignettes, cette puissance, en fait, je dirais, du matériau brut de la mémoire qui s'allie toujours à une recherche formelle. Et là, elle en prépare un troisième qu'on a tous hâte de lire et qui va sans doute revenir sur l'histoire familiale de cette Mia pour comprendre notamment pourquoi la mère est en fait devenue mélancolique, folle, mais quand même aimante.
Une mère éphémère de Emma Marsante apparue chez Verdier, c'était en 2022. Allez Marie Sorbier, à nouveau, vous nous conseillez une somme pour cet été. Les nouvelles complètes 1 et 2 de Philippe K. Dick, 120 nouvelles, écrites par le maître américain de la science-fiction, car l'auteur du Bic et du Maître du Haut-Château a été un auteur de fiction courte, extrêmement prolixe. Il a profondément marqué d'ailleurs l'imaginaire collectif. On trouve dans ce recueil 2 textes qui ont inspiré les films Minority Report et Total Recall. Marie Sorbier, fan de science-fiction, je ne m'en doutais pas.
Ah, je vous ai surprise avec ce choix, Marie. Bon, j'en suis ravie. Alors, je ne connais rien à la science-fiction. Voilà. Vous me connaissez bien. Mais Philippe K. Dick, je crois, dépasse largement le genre. Je sais bien qu'en disant ça, je le ferai sourire parce qu'il s'est battu toute sa vie contre cette étiquette. Lui voulait écrire de la littérature sérieuse. Il voulait écrire de la littérature générale. Or, il a écrit toute sa vie de la science-fiction. Pourquoi ? Parce que c'était son boulot alimentaire. Il écrivait des nouvelles pour des journaux, pour des magazines. Et alors, prolifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il en écrivait beaucoup. C'est quelqu'un qui est rarement sorti de chez lui. Il était complètement agoraphobe, il était psychotique. Bon, donc il restait à son bureau et il écrivait des nouvelles de science-fiction. En parallèle de ces romans dits de littérature générale qui n'ont jamais trouvé preneur, qui n'ont jamais été édités, donc il y a 7 romans qu'on connaît aujourd'hui. Mais lui, de son vivant, était très malheureux de ça en disant qu'il était cantonné à un genre. Et en fait, quand on lit, en tout cas comme moi, quand on n'est pas du tout baigné dans la science-fiction, je connais aucun code, vraiment, je suis complètement néophyte. Mais quand je lis Philippe K. Dick, je vois pas de la science-fiction. Ce sont des espèces de fables philosophiques théologique aussi beaucoup, et c'est là où moi j'y trouve mon compte, c'est-à-dire qu'il a beaucoup lu les théologiens, et il a un rapport à la mystique que je trouve complètement fascinant. Alors c'est sa mystique à lui, hein, on est dans quelque chose un peu particulier, mais en tout cas il va toujours interroger ce qu'il y a derrière, comme si derrière nos murs du studio il y avait tout un monde différent qui était en train de nous regarder ou nous manipuler. Et ça, cette façon de voir au-delà, ou en tout cas de travailler une transcendance, moi je trouve ça fantastique. Il faut pas oublier d'abord que c'est très drôle. Il y a certaines nouvelles qui sont alors drôles et tragiques, hein, ça va souvent ensemble. Mais quand la première lecture, elle peut paraître très drôle, et puis une fois qu'on réfléchit un peu, ça nous semble fou. Et troisième chose, quand j'ai relu ces quelques nouvelles, voilà, pour vous les conseiller pour cet été, j'ai été frappée de voir, ce sont des nouvelles qui ont été écrites dans les années 50, hein, donc il y a quand même quelques décennies de ça. On est aujourd'hui dans le monde de Philip K. Dick, c'est-à-dire qu'on lit des nouvelles qui semblent notre quotidien total. Il a quand même, alors inventer c'est un grand mot, mais en tout cas il avait senti cette intelligence artificielle qui fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Il y a la moitié des nouvelles qui en parlent avec des mots à lui, mais c'est exactement ça. Les fake news, il a travaillé là-dessus. Les complotistes, c'était son grand truc. Donc finalement, on se sent très à l'aise dans ces nouvelles qui ne sont plus du tout de la science-fiction, mais vraiment le monde contemporain. Et ça, c'est quand même le signe d'un grand auteur. Je ne sais pas si c'était un visionnaire, il se droguait beaucoup hein, pour écrire, il prenait beaucoup de substances, donc voilà, il avait accès à des mondes un peu particuliers, mais je pense qu'il avait un cerveau fait d'une façon assez étrange pour pouvoir voir. Il y avait une préscience quand même quelque part, et il a écrit tout ça dans des nouvelles, donc les lire aujourd'hui, ça se picore, hein, les deux quartos, c'est des gros volumes quand même, hein, c'est deux pavés, on peut dire ça, mais ça se picore, il y a des nouvelles de 3 pages, d'autres de 10, donc c'est très agréable à lire, et elles sont toutes très étonnantes, et très stimulantes.
Johann Farber, un mot sur K. Dick. Philip K. Dick, pardon.
Oui, bah absolument, absolument d'accord. À relire quelques nouvelles, on s'aperçoit en fait que c'est plus un essayiste qu'un novelliste, c'est-à-dire que c'est vraiment la libre intelligence du monde et de l'idée. Voilà, on a l'impression à le relire que tout ce qu'il cherchait à développer, c'était par une forme narrative, une sorte de projection d'une idée, ce qui montre en fait une très grande inquiétude pour le réel. Il y a vraiment une très grande inquiétude pour le réel, et même si beaucoup de nouvelles se répandent dans des détails sur la physique, etc. On voit plutôt que ce sont des questionnements vraiment métaphysiques sur le devenir de l'homme. Quelle est la place de l'homme dans un univers où la machine le comprime? Et puis, ce qui est quand même fort, moi je trouve, à le relire, et merci à Marie de m'avoir remis le nez là-dedans, c'est en fait que cette science, on le dit souvent, mais là ça marche vraiment pour lui, c'est-à-dire que la science-fiction, c'est vraiment la science de la fiction. Ça a l'air vraiment, tout est ici, tout cool, c'est-à-dire qu'on voit qu'il s'est absolument ouvragé son récit, que le récit coule, qu'il y a un art du suspense et de la mise en scène qui procure une dramaturgie sur des sujets qui, apparemment, moi non plus, je lis pas du tout de science-fiction, ne m'intéresseraient pas du tout, sur les machines, etc. Et là, en fait, je tourne fébrilement les pages, comme si ça pouvait m'intéresser, et pire que tout, ça m'intéresse.
Les deux volumes des nouvelles complètes de Philip K. Dick ont paru en 2020 dans la collection Quarto, vous l'avez dit, chez Gallimard, Johann Farber, Marie Sorbier. Merci beaucoup, c'est la dernière de l'année pour vous,
oui.
C'est ça?
Eh oui.
Eh bien, on se retrouve l'année prochaine, bien sûr.
Plaisir.
Avec plaisir, Marie.